Bonjour, j'ai donc le plaisir d'ouvrir et de présenter nos orateurs pour cette dernière demi-journée de ce qui est la seconde journée d'un colloque qui, comme l'a rappelé Antoine Compagnon ce matin, a été pris dans la tourmente des attentats du 13 novembre. Et je ne vais pas répéter les choses qu'il a dites si justement ce matin. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je précise simplement qu'après quelques chamboulements de dernière minute, nous avons un programme de l'après-midi qui correspond au premier programme diffusé, c'est-à-dire que nous aurons le plaisir d'entendre successivement Jean-Marie Schaeffer, et puis nous aurons le plaisir d'entendre Tiphaine Samoyo. Nous ferons une courte pause. Et nous aurons ensuite Pierre Bergougnou, que je vois là-bas. Et ceci nous mènera jusqu'à une lecture de texte de Roland Barthes par Daniel Mesguich, comme prévenu, à 17h. Je voulais simplement ajouter un mot à ce qui avait été dit ce matin. Comme le savent, je crois, tous ceux et celles qui nous font l'amitié et le plaisir d'être revenus, en quelque sorte, dans ce colloque. Nous sommes très heureux de n'avoir pas renoncé, nous sommes très heureux d'avoir pu remettre sur pied cette seconde journée annulée le 14 novembre. Mais je voudrais tout spécialement remercier nos intervenants d'avoir, avec autant d'enthousiasme, je veux dire, c'est ça qui nous a encouragés à remobiliser ces locaux du collège et les énergies diverses, y compris celle d'Alexandre de Vitry, qui s'occupe admirablement de toute la logistique de cet événement, mais surtout nos intervenants qui ont accepté de revenir, et parfois de très loin. Vous les avez entendus ce matin, revenus du Japon et d'Italie, et donc un grand merci à eux pour cette fidélité, cette résolution. Donc je vais demander tout de suite à Jean-Marie Schaeffer de me rejoindre, s'il le veut bien. Le principe que nous avions adopté le 13 était de ne pas présenter les orateurs, puisqu'à l'époque il y avait une espèce de liste biographique qui était distribuée à l'entrée. Je crois que cette liste n'a pas été reprise à cause des petites incertitudes sur la programmation d'aujourd'hui, mais je ne ferai pas perdre de temps à nos orateurs en les présentant longuement. Je crois qu'il n'en est pas vraiment besoin d'ailleurs. J'ai grand plaisir à accueillir mon ami et collègue à l'École des hautes études en sciences sociales, Jean-Marie Schaeffer. Je ne vais pas énumérer la liste de ses publications, puisque ça rognerait considérablement sur son temps de parole, mais je vais simplement brandir silencieusement cet opus qu'il a consacré à l'automne à Roland Barthes, et qui est une lettre à Roland Barthes. Et je lui donne tout de suite la parole.
On m'entend, oui. Merci beaucoup, et merci beaucoup aux organisateurs du colloque de m'avoir invité. Je suis ici un peu par accident, parce que si je n'avais pas publié ce livre qui n'était pas prévu, ni dans ma tête, ni ailleurs, je ne serais certainement pas ici. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas un spécialiste de Roland Barthes, mais que je suis un lecteur très amoureux de tout ce qu'il a pu écrire. Alors, il n'était peut-être pas judicieux de ma part d'intituler « Vue en contre-plongée », la perspective dans laquelle je me propose de parler de Barthes dans ces quelques réflexions, étant donné le terme connote le cinéma pour la plupart d'entre nous, et qu'on connaît les rapports compliqués que Roland Barthes a entretenus, sinon avec le cinéma, en tout cas avec l'objet de connaissances cinéma. Mais je me dis que le terme désigne un effet optique qu'on trouve non seulement au cinéma, mais bien entendu aussi en photographie et même en peinture figurative, et que ça peut donc passer. Souvent, on considère que la vue en contre-plongée est une distorsion optique, en l'occurrence une exagération de la perspective. Mais les effets de la contre-plongée, comme de la plongée d'ailleurs, ne nous frappent comme exagérés que parce que ces deux angles s'éloignent de l'angle de vue par défaut de la perception humaine, c'est-à-dire un angle dont la bisectrice correspond à une horizontale tirée à la hauteur où est positionné l'œil ou l'objectif. Et si cet angle de vue peut être qualifié d'angle par défaut, c'est tout simplement parce que dans l'écologie de notre perception, l'angle de vue centré horizontalement, c'est-à-dire la vision à hauteur d'homme, est privilégié. Et c'est pour cette raison que la contre-plongée, comme la plongée, deviennent des angles de vue marqués. Et ceci peut être sur trois niveaux, au niveau mimétique, au niveau métaphorique et à un niveau axiologique. Au niveau mimétique, la contre-plongée, comme la plongée, produisent des effets d'étrangeté spatiale, ne semblent pas correspondre à une vision normale. Au niveau de leur dimension métaphorique, les deux techniques connotent des relations non égalitaires entre celui qui regarde et ce qui est vu. Dans la plongée, le point de vue d'où s'origine la construction perspectivique domine l'objet ou le sujet filmé. Dans la contre-plongée, à l'inverse, celui qui occupe le point de vue d'où la vue tire son origine, est dominé par l'objet ou le sujet représenté. En termes bartésiens, on pourrait dire que dans la vue en plongée, le spectateur domine le spectrum, alors que dans la contre-plongée, c'est le spectrum qui domine le spectateur. Mais en réalité, on sait bien que dans les deux cas, c'est l'opérateur, pour reprendre le troisième terme, qui est à l'origine de la déviation de l'angle de vue par rapport à la vue horizontale dite à hauteur d'homme. C'est donc lui qui opère une transformation du spectrum en figure dominante ou figure dominée. Par conséquent, si la contre-plongée rend le spectrum plus imposant, ce caractère dominant n'appartient peut-être pas en propre au spectrum, mais à la relation que l'opérateur instaure avec lui. L'opérateur peut bien entendu s'auto-affecter en se plaçant en situation de spectateur, au sens où il peut construire le spectrum dans une vue en contre-plongée, parce que c'est de cette façon-là qu'il veut se situer lui-même ou qu'il pense pouvoir se situer lui-même par rapport à ce spectrum. Et c'est cette dernière relation qui a toujours été la mienne à l'égard de Barthes. Mais lorsque le spectrum est un écrivain, l'opérateur qui accommode son regard de spectateur sur lui est un parlant qui accommode son écoute et sa parole. Et cela, il peut le faire selon au moins deux voies différentes. La première voie, en contre-plongée, part d'une image préconstruite de l'auteur. On peut dire que l'opérateur de cette image n'est pas vraiment l'opérateur individuel, le lecteur individuel, l'acteur écrivain individuel, mais la tradition qui est donnée en amont à travers cette image, à laquelle cette image s'est cristallisée. C'est la situation dans laquelle se trouve mis l'auteur canonique. Et dans ce cas de figure, la lecture se fait à partir de l'image, à partir du spectrum de l'auteur préconstruit en amont. La lecture vient donc après l'image et se règle sur elle. Mais on peut peut-être aussi concevoir un ordre inverse, où la lecture ne suit pas une image préconstruite du spectrum, mais où ce spectrum de l'auteur est construit par et à travers l'exercice de lecture de proche, en quelque sorte. On pourrait dire que dans le premier cas, l'admiration, car c'est bien d'admiration qu'il s'agit dans les deux cas, est socialement donnée, elle est garantie en amont, alors que dans le deuxième cas, elle est individuellement produite à travers l'expérience de lecture. L'opposition est évidemment caricaturale, je pense que dans la réalité de chacun d'entre nous, les deux voies sont en général combinées, mais selon les cas, l'une peut prendre le pas sur l'autre, et il me semble qu'elle dessine des dynamiques différentes. La manière dont le spectrum de Roland Barthes a, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis ce jour lointain, de mon adolescence où j'ai découvert Critique et vérité, donc a agi sur moi, a toujours été selon la deuxième voie. Mon Roland Barthes, si je peux me permettre cette expression, a été depuis l'origine et est resté à ce jour un pur spectrum en contre-plongée, émergeant de la lecture au fil de l'eau de ses ouvrages et de ses recueils d'articles. Et il me semble qu'il y a au moins trois voies différentes qu'une lecture en contre-plongée peut emprunter. Ce sont la voie de l'exhaustivité, celle de la potentialité ou de la potentialisation, et puis enfin celle de la polyphonie. Le premier mode de lecture en contre-plongée est la lecture exhaustive, une utopie qui, dans le domaine littéraire, a été poursuivie notamment par Jacobson et Lévi-Strauss dans la lecture des chats de Baudelaire. Mais elle est aussi revendiquée d'une certaine manière par Barthes dans l'effet de réel, où il note qu'il s'agit de rendre compte, je le cite, de toute la surface du tissu narratif, afin d'atteindre, je cite de nouveau, le détail absolu, l'unité insécable, la transition fugitive. Le principe de base de cette lecture est de considérer que dans le texte qu'on lit, tout est significatif. Tout se tient et toute différence fait système. C'est en quelque sorte un message sans bruit. Une telle lecture magnifie l'écrivain puisqu'elle le crédite d'une langue non bruitée et non redondante. Il s'agit certes d'une figure utopique de la lecture et sans doute aussi de l'écriture, mais une utopie à défaut de pouvoir se réaliser peut être un bon principe régulateur. Dans le domaine de la communication interhumaine, ce principe régulateur nous est d'ailleurs bien connu sous le nom du principe de charité interprétative. L'utopie de la lecture exhaustive correspond en somme à une maximalisation de ce principe de charité interprétative. Et il est en tout cas, ce principe, un corrélat nécessaire de toute lecture qui donne l'initiative au texte, c'est-à-dire qui ne part pas d'une image préalable de l'auteur comme autorité sur le texte, mais qui, à l'inverse, donne d'une certaine manière autorité au texte sur son scripteur, ou en tout cas sur son image. Il me semble même que cette lecture exhaustive est peut-être la forme utopique de toute relation esthétique au texte, c'est-à-dire de ce mode coûteux d'attention qui va à la dépense. Ce caractère coûteux de la lecture exhaustive ressort d'ailleurs bien des trois termes que Barthes utilise dans la Fédérale pour la caractériser. C'est une attention accordée aux détails, donc à des éléments qui ne se laissent pas réduire à la totalité à laquelle par ailleurs il contribue. C'est une attention accordée à l'unité insécable, c'est-à-dire à l'unité formelle ou sémantique minimale. C'est enfin une attention accordée à la transition fugitive, c'est-à-dire au passage et transition microscopique. Bref, il s'agit d'une lecture qui opère de proche en proche, plutôt que de partir de schémas globaux qu'elle se donnerait ou qu'on lui donnerait en amont, que ce soit des schémas de genre, de style ou d'autres. Une deuxième manière de lire un auteur en contre-plongée, c'est de le lire non pas selon la lettre et selon toute la lettre, mais de le lire en quelque sorte, et peut-être en tension avec sa première lecture, selon le sens, et plus précisément selon le sens le plus complexe. C'est-à-dire que la première lecture prend en compte tout ce qui est explicite, et la deuxième prolonge l'explicite vers le virtuel ou vers l'implicite, en tout cas vers ce qu'il est possible de prolonger dans le texte. Loin de s'en tenir à la lettre du texte, cette lecture doit en quelque sorte continuer le texte qui a été écrit par l'auteur. C'est un peu la fonction que Barthes avait assignée à la critique dans Critique et Vérité, reprenant d'ailleurs, peut-être sans le savoir, un principe qui avait déjà été formulé par le romantique allemand Friedrich Schlegel dans sa critique du Wilhelm Meister, donc du roman de Goethe. Schlegel avait dit que sa critique devait être un Übermeister, un sur-Meister, donc un sur-roman par rapport au roman qu'il commentait, et il devait être donc une potentialisation de ce roman, et il le devenait parce qu'il actualisait tout ce qui dans le roman était resté virtuel. C'est une lecture qui convient, si on veut l'appliquer à Barthes, aux nombreux petits textes programmatiques de celui-ci. C'est ainsi dans ce petit ouvrage que Philippe a brandi, j'ai essayé de lire l'activité structuraliste, qui est un petit texte de circonstance paru en 1963 dans les Lettres nouvelles. Ce texte, qui est un texte de circonstance, peut se lire selon deux manières. On peut y voir une version destinée au grand public de la doctrine structuraliste et donc essayer d'y retrouver les topoi, les lieux communs de cette doctrine. Le binarisme, le refus de toute théorie substantialiste du sens en faveur d'une théorie purement différentielle, etc. Mais on peut aussi, me semble-t-il, lire le texte autrement. Et pour le faire, on peut s'immerger dans ce qui s'y esquisse comme programme, comme projet, et continuer à en dessiner les implications au-delà de ce que l'auteur a lui-même explicité. Si on le lit ainsi, donc selon une deuxième modalité de lecture coûteuse et non économique, ce texte se révèle être une réflexion extrêmement riche sur l'enjeu d'une approche structurale des faits de création verbale et plus largement des faits symboliques. Barthes insiste d'ailleurs dès le début sur le fait que le structuralisme ne désigne pas une solidarité de doctrine, je le cite, ou de combat, ni une école, ni un mouvement, mais, dit-il, une activité, c'est-à-dire, je le cite encore, une succession réglée d'un certain nombre d'opérations mentales. Le but de ces opérations mentales, dit-il, est de reconstituer un objet de façon à manifester dans cette reconstitution les règles de fonctionnement ou les fonctions de cet objet. Et il précise que cette reconstitution est, je le cite, un simulacre dirigé, intéressé, dont la visée est de produire de l'intelligible. Fin de citation. En fait, ce qu'il appelle simulacre correspond à ce qu'on appelle plus couramment aujourd'hui une simulation modélisante ou une modélisation. Le but de l'activité structuraliste, peut-on donc dire en continuant Barthes, est de développer des modèles, c'est-à-dire des constructions mentales, qui peuvent tenir lieu de la réalité ou de certains aspects de la réalité pour les opérations cognitives que nous voulons mener sur celle-ci. Et Barthes distingue même classiquement les deux étapes dans cette modélisation. Il y a d'abord une phase de découpage, c'est-à-dire on cherche des éléments, une décomposition analytique si l'on veut, on a un nombre fini d'unités élémentaires, qui est suivie de ce qu'il appelle une phase d'agencement, c'est-à-dire de recomposition qui est réalisée grâce à des règles de combinaison qui prescrivent une récurrence réglée des unités et de leurs associations. Si on place ces réflexions à propos de la modélisation de ce qu'il appelle le simulacre dans le cadre plus vaste de la pensée des modèles, dont elle relève de fait, même si Barthes ne développe pas ses implications, la démarche structuraliste rejoint en fait l'analyse des procédures génériques du traitement mental de l'information. L'exemple le plus évident étant celui de la perception visuelle. Comme cela a été montré depuis un certain temps déjà, l'étape cruciale du traitement du signal visuel, donc de ce que nous voyons, et consiste en un encodage sélectif des stimuli qui sont projetés sur nos rétines. Et cet encodage se fait selon des différenciations de base qui sont discontinues. Ces opérations d'encodage sont réalisées dans des modules, donc dans des petites unités fermées sur elles-mêmes, spécifiques du cortex strié. Les cellules de chacun des modules sont sensibles à un type spécifique de différenciation. Les types de différenciation les plus importants étant les orientations de contour de ce que nous voyons, la direction des mouvements, la profondeur relative, les fréquences spatiales et les contrastes chromatiques. Or, chacun de ces types de différenciation est organisé selon un nombre fini d'oppositions contrastives discontinues, par exemple horizontale, verticale, diagonale, ou dans un autre module, en avant, en arrière, à côté, etc. L'objet ou la situation ou l'événement que nous voyons résulte de la synthèse de toute une cascade hiérarchiquement organisée de tels encodages sélectifs. Et c'est cette synthèse qui projette ce qu'on appelle les cartes rétinotopiques, c'est-à-dire des représentations déformées, mais homéomorphes, donc formellement équivalentes, du champ visuel. C'est exactement, en réalité, ce que le structuralisme barthésien, mais déjà avant lui, le structuralisme linguistique, avait dit à propos de la manière dont on pouvait décomposer le langage. Donc, il y a dans cette modélisation, au-delà de tout ce qui a pu en être dit de manière critique, il y a la mise à jour d'une structure qui semble bien relever de ce que Barthes appelle d'une opération mentale, puisqu'on la retrouve de la même manière dans des opérations mentales aussi fondamentales pour notre vie que l'est la vision. Donc, il est évident que le petit texte de Barthes n'explicite pas tout ceci. Mais il en livre une esquisse dont ce qui vient d'être dit est un prolongement non seulement possible, mais virtuellement inscrit dans ce qui du modèle est explicité par lui. Une troisième et dernière façon de lire en contre-plongée, c'est la lecture qu'on pourrait appeler la lecture polyphonique. Une lecture qui ne part plus de l'image de l'écrivain comme lieu d'une autorité, mais qui voit dans l'écrivain le croisement de multiples voix et de multiples voix avec ES, donc avec X et avec ES, qui ne sont pas nécessairement cohérentes. Tout simplement parce que le sujet n'est peut-être pas un, mais multiple, et notamment n'est peut-être pas tenu à l'unité d'une biographie narrative orientée, mais peut aussi relever de ce que le philosophe Galen Strawson a appelé une structure épisodique, qui permet qu'un individu au moment X n'est pas nécessairement reconnectible à ce qu'il a été au point X moins 1, par exemple. J'ai pour ma part, en tout cas, toujours lu Barthes ainsi, non pas en y recherchant tout au long de l'œuvre la cohérence, soit d'une doctrine, soit celle d'une évolution théologique qui qui mène d'une doctrine à une autre, ou d'une vision à une autre, par exemple du structuralisme vers une écriture du moi, mais en acceptant la pluralité des voix, ce qui n'est possible que si on lit chacune dans son propre présent. Ceci signifie, ou a signifié pour moi, que je lisais Barthes, le Barthes de l'époque dite structuraliste, non pas à partir du Barthes des années 70, mais par rapport à son propre présent. Ce qui impliquait pour moi de ne pas considérer les écritures du moi comme un dépassement ou un abandon de l'idéal structuraliste, mais comme une autre voie alternative. Et Barthes pose à cet égard un problème qui peut paraître particulier, mais qui ne l'est pas réellement. Il fait partie d'une famille d'écrivains et de penseurs assez nombreux, dont l'identité est celle d'un feuilleté. Et il suffit de penser en philosophie à Nietzsche, dont on pourrait montrer que nonobstant toutes les tentatives de le ramener à une histoire de vie et de pensée orientée par sa fin, eh bien, c'est un sujet multiple qui porte le nom de Nietzsche. On peut illustrer ce troisième type de lecture par les réflexions fort diverses que Barthes a menées depuis les années 50 jusqu'à la mort sur la photographie. Si on voulait retracer le cheminement entre les photochocs et la chambre claire, on pourrait peut-être distinguer trois temps topiques. Le premier interroge la relation entre des images lisibles et des images qui résistent à la signification. Je citais Barthes là. En quoi elles, selon lui, nous désorganisent ce que les images choquent, d'après lui, sont incapables de nous faire. Le second temps serait celui d'une sémiologie des images, qui oppose dans une seule et même image le caractère codé, les codes connotatifs, comme il dit, à ce qui est non codé ou, pour reprendre ces termes, ce qui est purement dénotatif. Enfin, Barthes en est venu à une problématique distinguant entre deux modes d'activation réceptive des images photographiques, le studium et le punctum. Il y a donc tout à la fois persistance d'une sorte de matrice structurale et transformation des problématiques. D'un premier questionnement en termes de classe d'images, il passe à un second en termes de différents niveaux d'interprétation d'un type de signe, puis à un troisième questionnement en termes de différents modes d'attention qu'on porte à l'image. Dans les trois cas, d'une certaine manière, la structure binaire de base reste la même. D'un côté, la photo comme icône culturelle, de l'autre, la photo comme trace indicielle. Bien sûr, il y a eu des déplacements. Les déplacements les plus importants que moi, pour ma part, j'ai pu voir, me semblent résider dans le fait que, dans le cadre de la distinction entre le studium et le punctum, ce qui est en jeu, c'est l'idée selon laquelle il existe des affinités électives entre l'ontologie matérielle indicielle de la photographie et cet usage spécifique qu'est la recherche du punctum. Dans la chambre claire, Barthes a noté que ce qui l'intéresse dans la photographie, ce n'est pas ce qu'elle a en commun avec les autres images, mais ce à travers quoi sa naissance est l'advenu de quelque chose de nouveau. Or, ce nouveau qui advient avec la photographie, c'est qu'elle est l'enregistrement d'une constellation espace-temps ou spatio-temporelle spécifique, et donc la trace de quelque chose qui a été là, à un moment donné, devant l'objectif. On critique aujourd'hui, parfois, ou même souvent, la chambre claire pour cette orientation dite ontologique, qui est d'ailleurs assumée par Barthes lui-même. Il dit « J'étais saisi à l'égard de la photographie d'un désir ontologique ». Mais il faut sans doute distinguer entre ce qu'on pourrait appeler des ontologies faibles et des ontologies au sens fort philosophique du terme. D'une certaine façon, la question « Qu'est-ce que la photographie ?» n'est qu'une façon de formuler explicitement une question à laquelle ce que nous faisons avec la photographie a toujours déjà fourni la réponse. Pour l'exprimer autrement, dès lors que, en prenant une photo, en regardant une photo ou en parlant d'une photo, nous employons le terme de photographie, ces usages véhiculent toujours une représentation incarnée de ce que la photographie est pour nous, pour celui qui s'en sert, qui la regarde ou qui en parle. Nous prenons donc, pour reprendre les termes du philosophe américain Quine, sans cesse des engagements ontologiques. Mais ces ontologies-là, et telle est l'ontologie de la photo de Barthes, me semble-t-il, ce ne sont pas des ontologies théoriques, mais des ontologies incarnées dans nos actes, dans nos manières de percevoir et dans nos manières de dire. Pour moi, l'ontologie de l'image photographique, narrée dans la chambre claire, est une ontologie faible de ce type, et je ne vois pas comment nous pourrions échapper à de telles ontologies. Si la chambre claire n'était que cela, c'est-à-dire l'élucidation de la question de l'ontologie incarnée de la photographie, ce serait déjà un grand livre. Mais c'est beaucoup plus cela, ou du moins, pour moi, cela a été beaucoup plus que cela. Barthes Inard en a fait en même temps une quête. Il commence d'ailleurs son texte comme on débute un récit. Il y a un jour, il y a bien longtemps, je tombais sur une photo du dernier frère de Napoléon, Jérôme, entre parenthèses la date, 1852. Et qu'il ait mis la date de la photo n'est pas indifférent, bien sûr, eu égard à, justement, son ontologie de la photographie. Mais ce qui importe tout autant, c'est que cette phrase est le début d'une quête personnelle qui d'ailleurs n'aboutit pas, plutôt que l'incipit d'une théorie. Et pourtant, et c'est pour moi le vrai côté miraculeux du livre, ce que Barthes met en lumière à travers cette quête, c'est bien la structure phénoménologique, ou idéal typique si vous préférez, du mode d'attention qui épouse au plus près ce statut ontologique propre de l'image photographique. Ontologie précaire au sens littéral du terme, car ce qui caractérise la photo du punctum, c'est précisément le peu d'être qui lui est propre. Voilà qui, pour moi, en tout cas, fait de la chambre claire la défense la plus subtile et la plus évidente qui ait jamais été écrite de ce qui fait le prix de l'invention de la photographie dans l'histoire des hommes. Et voilà, entre autres, ce qui explique ma vue en plongée sur cet auteur. Merci.
Merci beaucoup, cher Jean-Marie. Je vais, pour donner le temps aux nombreuses questions de se formuler dans les têtes, peut-être au titre d'opération mentale d'abord, et ensuite de susciter des bras levés, je voulais dire que, plutôt que de revenir tout de suite sur ton très beau développement final sur la chambre claire, qui va certainement susciter beaucoup de réactions, Et cette belle formule d'une ontologie précaire que tu proposes à propos de la chambre claire, j'ai envie de revenir un instant sur quelque chose qui m'a à la fois intrigué, plu, séduit et convaincu dans ta lettre à Roland Barthes et sur lequel tu es revenu au début de ta présentation. C'est une sorte de, j'ose dire, de réhabilitation que tu fais du structuralisme tel que Barthes l'a pratiqué, l'a proposé, pratiqué et, je crois, d'une certaine manière, jamais renié. Je pense que la manière dont tu insistes sur la permanence des binarismes chez lui est peut-être mis au nombre des indices du fait qu'il y ait, comment dire, il y ait toujours eu persistance d'un mode d'approche structuraliste des objets. Et je me demandais simplement, quand tu vas jusqu'à voir en Barthes, non pas le précurseur, puisque je crois que cette notion est glissante, et d'ailleurs tu ne l'emploies à aucun moment dans ta lettre à Roland Barthes, mais quelqu'un que nous pouvons aujourd'hui lire toujours au nom de ces points de productivité que nous cherchons dans les œuvres et que tu cherches, toi, en théoricien, comme nos orateurs de ce matin l'ont cherché dans d'autres domaines, je me demande dans quelle mesure l'idée d'une proximité, à travers la définition de la modélisation comme opération mentale, la proximité entre ce structuralisme barthésien et les approches... les approches cognitives, parce que je crois que c'est à ça que tu fais clairement allusion, en quoi est-ce que ça ne rencontre pas la difficulté de la centralité de la notion d'immanence à laquelle Barthes tient tellement? Il revient sans cesse sur le fait qu'il est attaché à l'idée de cette immanence, c'est-à-dire que les choses sont déjà là dans l'objet sur lequel on fait porter son attention. Et c'est là peut-être que je vois une sorte de tension entre les deux, mais peut-être à tort.
Je pense que pour la réhabilitation du structuralisme, je ne sais pas très bien quoi répondre. Pour moi, ce n'était pas une réhabilitation, parce que pour moi, ça n'a jamais été mort, d'une certaine manière, mais non pas parce que c'était... pas le structuralisme, mais ce qu'il y avait au fond comme mode de questionnement donc qui dépasse de loin le cas de Barthes, et, mais qui est en fait une tradition de pensée qui remonte au moins au début du XXe siècle, et qu'on trouve sous des formes philosophiques, sous des formes littéraires, dans le folklore, dans beaucoup de... Et je crois que c'est quelque chose qui reste vivant, et qui reste vivant, et c'est pour cela que j'ai parlé non pas de sciences cognitives, mais du cerveau, parce qu'on on découvre l'importance de l'organisation binaire dans toutes les catégorisations en fait, mentales, et y compris dans des opérations subpersonnelles, comme c'est le cas pour le traitement de base de la vision, où évidemment nous n'avons aucun accès conscient, mais qui est opéré par des différenciations discontinues en petit nombre dans chaque petit module du cerveau. Il n'y a qu'une sorte de différenciation qui sont traitées, donc il y a vraiment une décomposition de ce signal extrêmement riche et un appauvrissement, et puis il est de nouveau enrichi par synthèse. Donc maintenant sur la vraie question qui est celle de l'immanence, que les choses sont déjà là dans les choses, sans doute simplement elles passent dans un milieu différent, et pour que nous puissions dire qu'elles sont déjà là dans les choses, il faut qu'elles soient traitées d'une certaine manière, sauf si on admet qu'elles projettent des images au sens vrai du terme dans notre cerveau, ce qui n'est pas le cas, et donc à partir de ce moment-là, même si si tout est déjà là, tout est donné, il y a quand même des opérations qui se déroulent. Il y a d'ailleurs, je pense, des orientations, peut-être pas cognitivistes, mais dans les théories de la perception, comme l'écologie de la perception de Gibson, qui place le sens dans les choses, mais qui néanmoins doivent tenir compte du fait que pour que ce sens dans les choses puisse devenir le nôtre, il faut bien qu'il passe par un certain nombre de stades. Et d'abord, il doit passer par les yeux ou par les oreilles, et ensuite, ce signal est traité. Donc, en ce sens-là, je ne vois pas d'opposition. Ceci dit, je suis à peu près sûr que Barthes aurait détesté, en tout cas, les sciences cognitives. Je peux me tromper, mais ça ne m'étonnerait pas que s'il avait été là, mais ça, ce n'est pas important. Enfin, pour moi, ce n'est pas important. Voilà. Chacun d'entre nous aime des choses, en déteste d'autres. Voilà.
Oui, je te remercie. C'est aussi pour ça que, en lisant ta lettre à Alain Barthes, nous avons tous pensé que c'était l'exemple même d'aller chercher ce que Barthes appelait les points de productivité. C'est-à-dire que tu es allé chercher dans l'œuvre de Barthes les choses qui te paraissaient aider à la progression de tes propres réflexions. Et d'ailleurs, j'ajoute aussi que, en ce qui concerne cette mauvaise réputation que certains font structuralisme, il va de soi que je ne partage pas du tout. Hein, j'ai employé réhabilitation en feignant le discours d'autrui. Mais il est vrai que le structuralisme n'a pas aujourd'hui... je ne dirais pas que le mot est devenu un peu péjoratif, mais c'est à la limite parfois dans certains usages du terme. Mais au fond, on peut se consoler en pensant qu'il y a eu tout de suite un usage très polémique de structuralisme. Et toi, en te parlant, il me revenait en tête ce film que certains d'entre vous ont peut-être vu à la grande époque, c'est-à-dire autour de l'international situationniste, et qui était... C'était la mode à l'époque de détourner les films de karaté, les films faits à Hong Kong. Et je me rappelle ce merveilleux film intitulé « La dialectique peut-elle casser des briques ?» qui est évidemment un titre complètement inventé par les sous-titreurs. Et au moment le plus pathétique, je ne voudrais pas revenir sur le terrain de Paolo Fabri ce matin, mais au moment le plus pathétique, c'est au moment où le méchant est enfin vaincu et il y a un jeune couple qui représente le bien, et donc le jeune homme hésite à tuer le méchant une bonne fois. Et la jeune fille l'y incite en lui disant une chose en chinois, évidemment que la plupart des spectateurs français étaient bien incapables de comprendre, et qui était sous-titrée « Achève-le, c'est moins qu'un homme, c'est un structuraliste ». Bon, pardon, après cette anecdote, revenons aux choses sérieuses et aux questions de la salle.